nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé. Xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé.
Bonjour, la révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors aujourd'hui, émission spéciale sur la GPA, dite maternité de substitution. Et à l'occasion de la sortie d'un livre passionnant, donc qui s'appelle « Ventre alloué, une critique féministe de la GPA », grâce à la SIAMS, Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution. Et j'ai eu l'occasion de faire une interview à une des coprésidentes, Marie-Joseph De Villers. Et donc, je vous passerai des extraits de cette interview. J'ai une très longue conversation avec elle au sujet de la situation de la GPA dans le monde et du livre. Donc, cette conversation a duré plus d'une heure. Et je vous passerai des extraits de Marie-Jo De Villers, une bonne 35 minutes. Et je compléterai avec des extraits en fait, du livre que je viens de recevoir et de parcourir. Donc déjà, je vais vous lire la quatrième de couverture du livre, qui fait une bonne introduction. Alors que les violences faites aux femmes sont enfin reconnues comme un fléau mondial à combattre, les influents et riches promoteurs du marché de la reproduction humaine œuvrent sans relâche à valoriser et à faire légaliser la vente d'enfants par des mères porteuses. Pourtant, la GPA, gestation pour autrui, produit de la technicisation et de l'artificialisation des rapports humains, affublé d'un ersatz de terminologie féministe, implique un triple sacrifice. Celui que la mère fait d'elle-même, celui de l'enfant et celui de l'égale dignité des êtres humains. Si l'idéologie ultralibérale considère la vente de leur capacité de reproduction comme un droit des femmes, ce livre montre qu'il s'agit plutôt d'une déshumanisation relevant du néopatriarcat. Celui-ci donne aux femmes le choix de subir des violences médicales, psychologiques et économiques et transforme l'enfant en objet de fabrication et de transaction marchande, lui niant ainsi le statut de sujet. Cette conviction anime l'ensemble des contributrices et contributeurs, universitaires, journalistes, pionnières et militantes de la lutte pour le droit des femmes, des lesbiennes et des homosexuels. La diversité des approches, théoriques, historiques, politiques, scientifiques et linguistiques, et la variété des origines géographiques, nécessaires car il s'agit d'un commerce mondial, permettent une appréhension critique globale et approfondie de la GPA, faisant de ce livre une référence pour comprendre l'industrialisation de la fertilité humaine et le danger des forces du marché. Donc je vais vous lire aussi juste un tout petit extrait, puis j'y reviendrai après, de la préface. Préface qui a été écrite donc par Anna Luana Stoicea Deram et Marie-Joseph De Villers. Critiquer et combattre la gestation pour autrui, GPA, vous range sans procès dans le camp du mal. Depuis quelques années, la plupart des médias français, publics comme privés, en font la promotion assidue à l'aide de publireportages et d'émissions complaisantes. Des publications scientifiques soutenues par le CNRS citent la Bible comme preuve irréfutable de son ancienneté, censée la justifier et la légitimer. Et la justice s'efforce d'ignorer les ventes d'enfants qu'elle s'empresse d'avaliser pour parachever les effets de contrats de GPA conclus ailleurs. Les quelques voix critiques qui sont encore audibles dans les médias sont soigneusement amalgamées et caricaturées comme incarnation de l'anti-progrès. Les arguments critiques ne sont jamais écoutés, encore moins pris en considération, ni par les médias, ni par la justice. Donc effectivement, je pense que vous avez pu remarquer en ce moment aussi en France, il y a eu des soirées entières consacrées à la promotion un peu de la GPA sur différentes chaînes de France Télévisions. Donc les médias complaisants, aucune critique de la GPA audible. C'est un peu la même chose que pour la prostitution où malheureusement on entend l'apologie des proxénètes qui disent que c'est un travail, bien que nous soyons dans un pays abolitionniste et que cette violence sexuelle devrait être enseignée à l'école et à toutes les personnes, en fait. Bon, voilà, je fais le parallèle entre la GPA et la prostitution, qui est d'ailleurs un parallèle très valable et qui est fait aussi dans ce livre qui s'intitule « Ventre à louer ». Donc avant de commencer aussi à passer donc des extraits d'interview de Marie-Joseph de Villers, je vais vous lire un communiqué de presse que vient de faire la SIAMS, donc cette coalition internationale d'abolition, qui regroupe, elle va vous l'expliquer, de nombreuses et très nombreuses associations à la fois féministes et humanitaires qui sont pour l'abolition. Donc ce communiqué a été fait par rapport à l'Ukraine et en fait, voilà, je vais vous le lire et vous allez voir que déjà ça donne vraiment un très bon aperçu d'un exemple emblématique actuel de l'ignominie de la GPA en Ukraine. Voilà, qui a été révélé d'abord par le Covid et ensuite, évidemment, en ce moment, par la guerre. Nul ne l'ignore. La guerre en Ukraine est là depuis 8 ans. Il y a 2 ans, la pandémie, avec les images de ces bébés bloqués en Ukraine, a révélé le vrai visage de la GPA au monde entier. L'opinion publique s'en est offusquée. Des officiels ukrainiens ont envisagé d'y mettre bon ordre. Pourtant, rien ne s'est passé. Aucune mesure n'a été prise. Le marché n'a jamais été aussi florissant. Avec 3 000 à 5 000 enfants produits par an pour des clients américains, allemands, canadiens, argentins, français, espagnols. Vos voisins peut-être. Aujourd'hui, l'invasion du territoire ukrainien n'épargne personne, ni les mères porteuses, ni les enfants nés de GPA. Et de nouveau, la sordide et inhumaine réalité de la GPA nous saute au visage. Soucieux de récupérer leurs biens par tous les moyens, sans considération pour les mères abandonnées à leur sort dans un pays en guerre, des parents commanditaires arrogants s'emparent de l'enfant à peine né, imposent des accouchements anticipés. Les agences ne sont pas en reste, qui font évacuer en catimini des embryons et du matériel génétique à l'étranger, livrent les nouveau-nés aux frontières, organise la mise à disposition des mères porteuses dans les pays limitrophes, Roumanie, Pologne, voire dans le propre pays de leurs clients, les déplace loin de Kiev et loin de leur famille, leur interdisent d'entrer en relation avec les commanditaires ou les somme de rentrer en Ukraine si elles se sont réfugiées ailleurs, sans doute pour ne pas perdre la manne financière qu'elles leur procurent. L'image des nouveau-nés dans le bunker organisé par l'agence ukrainienne Biotexcom a fait le tour de la planète, avec des bébés âgés de 5 ou 6 mois, nés bien avant février 2022 et oubliés par les clients. Bref, combien d'enfants sans mère, abandonnés ou victimes de trafic dans ce chaos? Combien de mères porteuses aux abois, en total désarroi? Ce scandale en rappelle bien d'autres, comme celui de 2015 au Népal, où des mères porteuses étaient abandonnées sur le tarmac de l'aéroport, tandis que des avions, dans un pays dévasté par un tremblement de terre, emportaient les « parents d'intention » entre guillemets vers leur pays, les nouveau-nés dans les bras. Et les États ? Certains, comme l'Irlande et la Grande-Bretagne, sous la pression des commanditaires et en faisant fi de leur propre loi sur l'immigration, propose d'exfiltrer les mères porteuses et de les accueillir de façon irrégulière sur leur territoire. D'autres, comme l'Espagne et la France, ferment les yeux sur ces arrivées de mères porteuses ukrainiennes et de nouveau-nés sans identité trafiqués. Des déplacements d'êtres humains qui relèvent de la traite humaine. Ainsi, voyons-nous des États, pour avoir fermé les yeux, laissé se développer, même encourager indirectement, ce marché mondialisé de l'humain qu'est la GPA. Recourir à de tels stratagèmes en faveur de leurs citoyens titulaires de contrats de GPA. Cette crise n'est pas la dernière. La situation actuelle en Ukraine qui se déroule sous nos yeux n'en est que le révélateur. En Asie, des pays qui avaient fermé leurs frontières à la GPA projettent de les rouvrir, comme la Thaïlande qui y voit une source de devises, ou le Cambodge, de l'initiative même du président du comité contre la traite de personnes et ministre de l'Intérieur. En Amérique du Sud, 5 pays envisagent de l'organiser sur leur territoire. La mafia ne s'y est pas trompée, qui investit cette activité si lucrative. Et en Europe, combien oublient que la GPA y fut interdite dans la plupart des pays au nom de la dignité humaine, valeur qui cimente notre pacte européen? Combien de crises, combien de scandales, combien de mères porteuses sacrifiées, combien d'enfants achetés, vendus, trafiqués, abandonnés, faudra-t-il encore avant que des gouvernements assez courageux se mobilisent pour avancer vers l'abolition mondiale de cette pratique déshumanisante. Voilà, alors pour compléter ce communiqué de presse, donc grâce à ma conversation avec Marie-Joseph de Villers, elle m'a expliqué que comme en URSS, comme en Géorgie, l'Ukraine est ouverte à la GPA, à la fois au national et aux transfrontières. Donc aux parents commanditaires, évidemment, étrangers. Donc elle est ouverte à la GPA, mais seulement pour les hétérosexuels. C'est un, un plan commercial alléchant, puisque ça coûte 3 fois moins pour un parent commanditaire qu'aux États-Unis. Et donc Biotexcom, cette agence, fait la propagande partout en Europe. L'Ukraine est devenue le supermarché de la GPA pour le monde entier. Donc comme je vous l'ai lu dans le communiqué de presse, entre 3000 et 5000 bébés par an. C'est donc une destination low cost de la GPA, où les parents commanditaires n'ont même pas besoin d'être en contact avec la mère porteuse. Donc voilà, comme le communiqué de presse vous l'a expliqué, l'Ukraine avait déjà été sous le coup des projecteurs des médias au moment du Covid. Et on suppose à ce moment-là, après le Covid, que la moitié des enfants qui sont dans les orphelinats aujourd'hui sont des enfants abandonnés suite à une GPA. Des autorités à ce moment-là avaient pris des positions critiques, mais on le voit 2 ans plus tard, avec cette guerre, ben rien n'a été fait et la situation est catastrophique, comme je viens de vous en faire part, donc grâce à ce communiqué. Donc voilà, faute d'avancer vers l'abolition, les États sont réduits à se rendre complices de ce trafic et à pratiquer la traite d'enfants. Donc maintenant, pour bien rentrer dans le détail de ce qu'est exactement la gestation pour autrui, je vais vous faire écouter donc des extraits d'interview de Marie-Joseph de Villers. Alors déjà, premier extrait où elle se présente. Alors attendez, je vérifie techniquement. Voilà.
Bonjour Nadia, merci de m'avoir invitée sur Radio Galère à parler de ce grand sujet de la maternité de substitution, que plus couramment on appelle GPA. Alors, je vais me présenter, je suis Marie-Joseph de Villers. Moi, je suis l'une des 3 coprésidentes de la CIEMS, qui est la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution. Alors, c'est une organisation qui agrège, c'est une fédération d'associations, qui aujourd'hui compte 41 organisations membres dans 14 pays. Alors, quand je vais du plus loin au plus proche, ça fait le Japon, la Corée, l'Australie, le Canada, la Colombie, la Suède, l'Autriche, l'Ukraine, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, Et j'en oublie certainement. Ah, la France, j'ai oublié la France, bien sûr.
Ouais, bien
Voilà.
sûr.
Et toutes ces organisations se rassemblent sur la question de la GPA et pour son abolition. Et toutes, évidemment, sont des organisations féministes ou en faveur des droits humains. Alors,
Elle a été créée en quelle année, cette coalition?
on a été créé en 2018. On est une très, très jeune coalition. On a été créé à la suite, en fait, des premières assises internationales pour l'abolition de la maternité de substitution qui ont eu lieu à Paris le 2 octobre 2016. Alors, 2016 à 2018, il nous a fallu 2 ans pour nous décider à créer ce genre d'organisation.
Voilà, alors donc Marie-Joseph de Villars, je complète, milite depuis longtemps dans les mouvements féministes, lesbiens, culturels et politiques. Et en fait, elle a été confrontée à la GPA dès les années 2019. En fait, non, elle a été confrontée à la revendication par les homosexuels de la GPA. Et à ce moment-là, elle a alerté, pardon, les organisations féministes sur la nécessité de s'y opposer et a cofondé la SIAMS. Donc, je vais vous passer l'audio suivant où en fait, elle va définir ce qu'est, de quoi on parle exactement quand on parle de la GPA. Donc, et quelles sont les confusions. Je vous la laisse écouter.
Alors, quand on parle de GPA, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Alors, nous, on a une définition qu'on aime bien. Nous, on dit que c'est une pratique. Ce n'est pas une pratique médicale, c'est une pratique sociale qui consiste à recruter une femme, que ce soit contre rémunération ou non, pour porter un ou plusieurs embryons, conçus ou non avec ses propres ovocytes, afin de remettre les enfants qu'elle mettra au monde à la personne ou aux personnes qui souhaitent être désignées comme parents de ces enfants. Alors, dans cette définition, nous on met toujours le fait que ce sont en fait les déclencheurs de GPA, ce sont toujours les commanditaires et les agences, et la mère porteuse, elle est recrutée la plupart du temps. On va la chercher. On va la chercher. Alors souvent, on présente la GPA comme une espèce de situation égalitaire où en fait on a une femme qui consent à porter des enfants pour le compte de parents commanditaires. Donc,
Pas les femmes qui cherchent avant tout
ben non,
à
si elles
s'engager
avaient
dans le.
d'autres. Et là-dessus,
Voilà.
c'est clair, hein, quoi qu'on en dise. Bien sûr, il y a peut-être une ou deux exceptions de femmes qui le font vraiment pro bono pour le plaisir d'être enceinte, comme elles disent. Mais déjà, on s'aperçoit que derrière les genres de discours qui nous sont présentés, en fait, pour nous laisser croire qu'en fait, elles sont libres de leur choix et tout, on sait très bien, et la réalité nous le dit, on a une chercheuse comme Sheila Saravanan qui a fait tellement d'études auprès de ces mères porteuses, on sait très bien qu'en fait, si elles avaient le choix, elles feraient autre chose, hein. C'est l'absence de choix, c'est la vulnérabilité sociale, c'est la vulnérabilité économique qui les conduit à accepter cette situation, dont la plupart ne voudraient jamais pour leur fille. Il y a justement une mère porteuse qui le dit clairement dans l'un des entretiens que fait Sheila Saravanan auprès d'une mère porteuse en Inde. Elle dit oh, « Si jamais ma fille avait à faire ça, je considérerais que j'ai raté ma vie. » Voilà. Donc, c'est assez impressionnant. Alors aussi, ce qui est important, c'est de ne pas confondre la GPA et la PMA, de ne pas faire d'amalgame entre GPA et PMA, de bien distinguer aussi GPA et adoption. Alors c'est très important parce qu'il y a une di différence fondamentale entre la GPA et l'adoption. Dans l'adoption, en fait, on a un enfant né, sa mère décide de ne pas l'élever et on ne questionnera pas ses motivations. Et c'est ensuite, en fait, après la naissance, qu'elle va prendre cette décision, après la naissance de l'enfant, elle va prendre cette décision. Et puis, ce sont les pouvoirs publics qui vont décider du sort de cet enfant et qui vont lui trouver une famille et faire en sorte qu'il ait la meilleure des vies possibles.
Moi, je
Mais.
trouve vraiment difficile de confondre l'adoption et la GPA, en fait. Enfin, je vois vraiment pas le rapport entre
Oui.
les deux.
Mais la distinction, elle est très, très importante parce que dans la GPA, la distinction, ce qui fait vraiment ce qui est très, très différent dans la GPA, c'est que la décision d'affecter l'enfant à une tierce personne, elle est prise avant la conception. Or, dans les traités, dans les conventions internationales, il est clair que affecter un enfant, c'est-à-dire prendre la décision d'affecter l'enfant avant sa naissance, ça s'appelle de la traite. Donc, la GPA n'est rien d'autre que de la traite d'enfants. Et là, tous les juristes du monde sont absolument d'accord là-dessus. Même la rapporteure des Nations Unies sur les droits des enfants, elle dit, la gestation pour autrui relève de la vente d'enfants dès lors que la mère porteuse ou une tierce personne reçoit une rémunération ou tout autre avantage en contrepartie du transfert d'un enfant. Et là, même si la mère porteuse accepte de faire ça pour rien, les intermédiaires vont recevoir des rémunérations. Il va y avoir l'avocat, la clinique de fertilité, les médecins, le notaire, l'agence, tout le monde reçoit de l'argent pour arriver à procurer cet enfant aux parents commanditaires. Donc, il y a bien échange d'argent. Donc, il y a bien vente d'enfants.
Voilà, alors je reprends le micro donc, pour compléter. Donc par rapport à cette définition de la GPA, c'est aussi un processus qui organise le marché de la reproduction avec des tiers impliqués. Donc en fait, les tiers impliqués et les intérêts en jeu sont énormes parce que souvent on ne fixe les projecteurs que sur la mère porteuse et les parents commanditaires ou acheteurs. Exprès en fait pour faire oublier que c'est un marché juteux et ce n'est donc pas un processus médical. Donc ce marché, avec ses tiers qui sont nombreux, ses intérêts très importants, il y consiste en, premièrement, des juristes. C'est bien. On voit donc bien que c'est un processus qui est non médical, puisque dans un processus médical, on n'a pas besoin de juristes. Donc des juristes, pourquoi? Pour le contrat entre la mère porteuse et les parents commanditaires. Et pas seulement, mais aussi pour le transfert de filiation, qui implique des procédures administratives avec l'état civil. Deuxième tiers, il y a les cliniques et les laboratoires qui organisent la FIV. Troisième partenaire, il y a l'industrie chimique qui fournissent des antibiotiques, des hormones par exemple, et notamment un produit qui s'appelle l'opron, qui est d'ailleurs utilisé pour faire des transitions de genre pour l'harmonisation pour les adolescents qui veulent changer de genre. Donc derrière tout ça, on voit évidemment que cette industrie chimique avec de gros intérêts économiques. Il y a aussi les banques qui promeuvent dans les salons de promotion de la GPA et qui financent la GPA. Il y a aussi des psychologues. Elle m'a expliqué que leur rôle est très important parce qu'ils sont là pour que la mère porteuse se détache de l'enfant qu'elle porte. Et ça, c'est très symptomatique. Voilà, on lui dit que ce n'est pas son enfant parce qu'il n'y a pas de lien génétique. Alors que, en fait, il se trouve que dans la grossesse, c'est un processus biologique dont, de toute façon, il y a un lien. Et d'ailleurs, elle m'a expliqué que le professeur Friedman, qui est le premier à avoir fabriquer en fait des bébés éprouvettes. Quand il avait une mère devant lui qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui avait recours à la FIV, si elle n'avait pas d'ovocytes, elle avait recours à un don d'ovocytes et donc le bébé était fabriqué en éprouvette. Et bien à ce moment-là, les psys rassuraient la mère en disant « Mais vous portez cet enfant, c'est vous la mère. » Donc ici, dans le GPA, on a un discours inversé. Donc en résumé, la GPA, c'est un marché, c'est une industrie en expansion, c'est un marché juteux, ultra libéral, ultra-capitaliste, avec deux produits qui sont l'objet du marché. Donc l'enfant, mais pas seulement, puisque les parents veulent un enfant, mais veulent absolument évidemment une filiation, donc un lien juridique, et ça s'achète, donc avec les juristes qui sont là, entre les parents commanditaires et l'enfant. Et pour tout cela, évidemment, les tiers sont grassement rétribués, comme elle vous l'a expliqué juste avant. Quoi qu'il arrive, ils seront rétribués, même si la mère n'est pas forcément rétribué dans le cas d'une GPA non commerciale, soi-disant éthique, qui n'a rien d'éthique, ou simplement la différence, c'est que la mère porteuse, elle, n'est pas rétribuée, mais évidemment que les tiers, eux, sont rétribués. Voilà, donc aussi ajouter donc ce processus de l'organisation du marché de la reproduction avec tous ces tiers impliqués intéresse évidemment la mafia et vous l'avez entendu dans, quand j'ai lu le communiqué de presse qu'elles ont fait, que la SIAMS a fait par rapport à l'Ukraine. Les réseaux criminels s'emparent de ce nouveau marché. Elle m'a donné un autre exemple que celui qui a été donné dans ce communiqué de presse. Il y a aussi par exemple la Birmanie où le gouvernement de Randum a dénoncé le trafic des femmes en direction de la Chine, où les femmes en fait sont recrutées et soit comme prostituées, soit comme mères porteuses. Et là aussi, on voit le parallèle entre la prostitution et la GPA. Avec évidemment la prostitution, exactement la même chose. La prostitution n'existerait pas sans la traite des femmes et sans les réseaux criminels. Voilà, donc ensuite une autre confusion à faire qu'elle m'a expliquée, c'est de pas confondre la GPA avec la PMA. Donc la PMA c'est une aide à la procréation où du sperme est injecté dans l'utérus de la femme qui va porter l'enfant, accoucher et l'élever. Donc la mère est reliée génétiquement à l'enfant. Alors que maintenant, dans la GPA, il n'y a plus d'insémination avec sperme. On se procure des ovocytes et du sperme et l'embryon va être fabriqué in vitro, avec la FIV. Ensuite, des embryons, pas un, mais plusieurs, pour voilà, plus de résultats, plus de probabilités de résultats, seront transplantés. Dans les années 80, la GPA se faisait par insémination de sperme. Maintenant, c'est fini. Aujourd'hui, donc, la mère porteuse n'a plus de lien génétique avec l'enfant, mais elle n'en reste pas moins la mère biologique, car la grossesse, rappelons-le, est un processus biologique. Donc, la confusion PMA-GPA est utilisée par les propagandistes de la GPA. C'est un très mauvais argument. Ils l'utilisent donc, qui est donc faux, puisque je viens de vous l'expliquer, mais qu'ils l'utilisent en fait pour dire que les lesbiennes ont la PMA et donc les gays devraient avoir la GPA. Ce sont des arguments fallacieux qui malheureusement sont toujours honteusement présentés. Voilà. Donc là maintenant je vais vous faire passer une autre extrait de Marie-Joseph, de mon interview avec Marie-Joseph, où elle va vous expliquer ce qu'il en est de cette... je vous expliquais donc les pro-GPA, eh bien, ils ont tout un discours huilé avec une belle propagande et des arguments tout à fait fallacieux. Et donc, ils utilisent aussi eh bien, l'argument du consentement. Et consentement à quoi ? Vous allez le voir, en fait, consentir au patriarcat, en fait. Je vous laisse écouter.
Aucune personne ne peut abandonner ses droits fondamentaux, que ce soit par le biais du consentement ou pas, parce que les droits fondamentaux et le droit à l'intégrité physique, par exemple, c'est quelque chose qui ne se consent pas, qui ne peut pas faire l'objet de cession, qui ne peut pas être partagé. Et dans la GPA, en fait, les femmes, elles consentent en fait à perdre leurs droits pendant 9 mois, à abandonner tous leurs droits.
Je ferai le parallèle avec la prostitution, c'est exactement même chose. En fait, là, c'est tout à fait, on fait croire l'argument du choix, que ce seraient les femmes qui revendiqueraient de faire... ce entre guillemets plus vieux métier du monde qui n'est qu'une exploitation, donc voilà, c'est la même chose.
Oui, bien sûr, et ce sont qu'est-ce qui invoque la liberté des femmes et leurs droits, c'est toujours les clients. Mm-hmm. Les femmes n'ont jamais revendiqué le droit d'être mère porteuse.
Tout à fait, elles ne sont jamais battues pour perdre leurs droits fondamentaux, et le bénéfice est bien celui des hommes et du patriarcat, donc
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et on retrouve, tu parles de patriarcat, Nadia, mais on retrouve aussi dans cette pratique une vieille requête du patriarcat qui est de contrôler et de s'approprier la capacité reproductive des femmes.
Tout à fait.
Parce que dans les années 70...
C'est un peu les deux piliers, la prostitution, la maman ou la putain. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est les deux piliers du patriarcat.
Tout à fait, absolument. Mm. On est bien d'accord. Et s'accaparer de la capacité reproductive des femmes, mais aussi remettre sur le tapis cette vieille contrainte à la reproduction qu'on a tenté en fait dont on a tenté de se libérer depuis les années 70, parce que la contrainte à la reproduction, ça a toujours pesé sur les femmes. Et on a mis en avant, nous, avec le droit à l'avortement et à la contraception, on a mis en avant notre droit à choisir d'être mère ou de ne pas l'être. Mais maintenant, avec les techniques de reproduction, en fait, cette pression revient au galop. C'est-à-dire que vous soyez stérile ou pas, un enfant, vous allez en avoir. Il faudra que vous en ayez un. La pression, elle revient. Et le marché de la reproduction est là aussi pour redire aux femmes qu'elles peuvent avoir des enfants. Mais oui, bien sûr, vous aurez des enfants. Mais bien sûr, voilà. Et même cette pression à la reproduction, c'est très, très curieux. Enfin, c'est pas que du tout. On la retrouve aussi qui s'appuie, qui fait pression aussi sur les gays. Parce que dès que des gays se marient, l'entourage commence à dire « mais le bébé, c'est pour quand ?» Voilà. Donc, pour s'intégrer, être une vraie famille, il faut produire des enfants. Voilà, et se reproduire. Et donc, on retrouve dans la GPA vraiment cette vieille pression à la reproduction dont on a tenté pendant des dizaines d'années de se libérer. Elle revient avec la technique.
Donc voilà, alors là je vais vous lire pour compléter cette histoire de propagande mensongère utilisée pour faire croire à tout le monde que les femmes consentent, les mères porteuses, qu'elles sont volontaires, avec ce mythe patriarcal de la générosité des femmes, du sacrifice de soi, du sacrifice de la mère, qui en fait, comme l'a dit Marie-Joseph, valorise simplement la fonction reproductive de la femme. Donc je vais vous lire cet extrait de la préface. Les histoires promotionnelles mises en avant pour attirer des femmes candidates pour devenir mères porteuses valorisent la capacité de celles-ci à faire un don. Or, la plupart de ces femmes vivent dans des conditions modestes, dans des configurations familiales fragiles ou vulnérables. Leur proposer de se projeter dans la position de quelqu'un qui serait seul capable de faire un don inestimable à des personnes dont la situation financière, professionnelle et sociale est sensiblement meilleure que la leur, fonctionne de manière délibérément trompeuse comme un levier puissant et efficace. Car ce que l'on attend de ces femmes, en réalité, ce n'est pas un don, mais un sacrifice. Le glissement du don initialement souhaité au sacrifice inhérent à la pratique même est orchestré soigneusement, étape après étape, par les multiples acteurs qui en tirent profit. Agences intermédiaires, avocats, personnel de santé. En étant mère porteuse, les femmes se sacrifient elles-mêmes. Elles sacrifient l'enfant qu'elles mettent au monde pour le remettre au commanditaire et sacrifient aussi le principe d'égalité. Ce triple sacrifice est le plus souvent ignoré, et lorsque la réalité matérielle en impose la prise de conscience, l'expression du consentement au sacrifice est brandie comme preuve ultime de leur capacité d'agir. Autrement dit, accepter a posteriori que le don intentionnel se soit transformé inéluctablement en sacrifice de soi est la seule attitude perçue comme susceptible de restaurer l'humanité des mères porteuses. Car dénoncer la violence de la tromperie consistant à les obliger, par des techniques de persuasion et par des formules d'intimidation savamment distillées dans les contrats, à consentir au sacrifice de soi sur la seule base de leur intention de faire un don, et les conséquences néfastes de la GPA sur la santé et l'intégrité de ces femmes supposerait qu'elles se reconnaissent en tant que victimes d'une entreprise volontaire de déshumanisation. Or, entre le statut de victime d'une violence déshumanisante, c'est-à-dire susceptible de provoquer des séquelles à vie, et celui de fée ou d'ange bienfaisant, capable du sacrifice de soi assumé pour le bonheur des autres, on comprend qu'il est souhaitable de faire en sorte que ces femmes se vivent comme des êtres généreux, conformes en tout point aux attentes stéréotypées de l'industrie de la GPA, dont l'image de référence de la mère porteuse est d'être désireuse de mettre au monde des enfants pour d'autres, d'y parvenir et d'en être heureuse. L'expression du consentement de la victime à la violence qu'elle subit est présentée par le marché ultralibéral qui a investi l'industrie de la fertilité humaine en pleine expansion, dont la GPA fait partie, comme le nec plus ultra de l'autonomie et de la liberté de la personne devenue victime, comme dans le système prostitutionnel. Dans la GPA, le contrat précise les actes auxquels la femme qui veut devenir mère porteuse doit se soumettre. Plusieurs d'entre eux sont des violences médicales, économiques, psychologiques, qui peuvent avoir des effets durables sur la santé et la vie de la femme. Consentir par contrat à subir des violences, voire à perdre la vie, pour faire le bonheur d'autres personnes, est cependant loin d'être une manifestation de la liberté. Il serait aussi intéressant de savoir comment des personnes peuvent être heureuses de se procurer un enfant obtenu au prix de la vie de la femme qui lui a donné la vie. Voilà, donc je vais arrêter là sur cet extrait sur le consentement au patriarcat, utilisé donc dans cette propagande. C'est très bien expliqué dans ce passage. Et je vais vous faire écouter un autre extrait de l'interview où, en fait... je me rends compte que par contre, je l'ai oublié cet extrait-là. Dommage. Donc du coup, je vais vous en parler. J'ai oublié cet extrait-là, c'est pas grave. En fait, voilà, je viens de vous lire cette préface et on a abordé aussi les risques, évidemment, qui sont inhérents et les violences inhérentes à la GPA. En fait, ça fait partie des autres confusions entretenues à dessein, hein, pour faire croire à tout le monde que la GPA, c'est pas grave, c'est rien du tout. Et en fait, la GPA, c'est pas rien du tout. En fait, c'est une grossesse spécialement à risque. Donc en fait, les partisans de la GPA veulent nier ce qu'est la grossesse. Bon, c'est vrai qu'en patriarcat, ça reste de toute façon une affaire de bonne femme. Et pourtant, on connaît bien les taux de mortalité infantile et maternelle, ils sont connus dans le monde, et donc c'est pas rien. On passe sous silence que la GPA est une grossesse spécialement à risque, encore plus à risque qu'une grossesse normale, et que la mère porteuse met sa vie en jeu. Il faut savoir que nombreuses mères porteuses sont mortes, notamment en Inde. Où justement, en fait, le taux de mortalité et la santé des femmes, n'est pas forcément idéal, quoi. Alors Marie-Joseph m'expliquait qu'elle avait été alertée par un chercheur du CNRS qui fait une recherche sur une maladie lors de la grossesse qui s'appelle la préclampsie. La préclampsie, c'est une augmentation de la tension de la mère enceinte, quoi. Donc là, de la mère porteuse, qui lui fait risquer sa vie. Et cette préclampsie est particulièrement, le taux de préclampsie est particulièrement élevé dans le cas de la GPA. Parce que il est augmenté du fait que le matériel génétique est complètement étranger à la mère porteuse, du fait que l'embryon est un corps étranger. Du coup, la préclampsie, c'est que la pression artérielle de la mère porteuse monte pour rejeter ce corps étranger. Donc le risque de prééclampsie est beaucoup plus élevé avec la GPA, qui est une FIV avec double don de gamètes, sperme et ovocytes. Et de toute façon, l'enfant naîtra aussi prématuré, ce qui est un risque conséquent aussi. Il faut savoir aussi que les parents commanditaires exigent, dans un cas sur deux, une césarienne. Le taux de césarienne et de prématuré est donc très très élevé pour la GPA. Et c'est pas anodin parce que la césarienne peut handicaper la capacité future de la mère porteuse à la reproduction. On peut avoir un maximum de césariennes et c'est tout. Donc je vais vous faire écouter maintenant un autre extrait donc de l'interview de Marie-Joseph où elle vous explique ce que dans les contrats en fait les parents commanditaires ont tous les droits. Et ils peuvent en fait tout exiger.
«
Donc les commanditaires ont tous les droits, ils peuvent exiger aussi. Voilà,
Ah
la
oui,
façon dont la femme
puis
va coucher, etc.
tout à fait. Alors, quand on regarde ce qu'il peut décider, tout. Alors, dans le livre dont on reparlera tout à l'heure, qu'on vient de sortir, l'une des autrices explique un petit peu tous les prérequis, toutes les exigences en fait des parents commanditaires. Alors, il y a deux niveaux d'exigence en fait. Le premier niveau, c'est celui qui est imposé par les contrats, par les agences qui fournissent un contrat, voilà, qui est rédigé par un avocat en bonne et due forme. Et là-dedans, on prévoit absolument tout. On prévoit tout. Est-ce que elle, quel est le régime alimentaire que la mère porteuse pourra adopter? Y a-t-il des préconisations? Comment est-ce qu'elle aura droit? Est-ce qu'elle pourra avoir des relations sexuelles avec son propre partenaire ou non?
Incroyable ça.
Par quel moyen va s'effectuer, de quelle façon va s'effectuer l'accouchement? Ça, c'est un premier niveau de préconisation qui est par contrat. Mais ensuite, les parents commanditaires peuvent, par là-dessus, en plus, exiger absolument tout. Tout. Parce qu'ils ont le pouvoir de l'argent et que si la mère porteuse ne conçoit, ne concède pas, ne, n'accorde pas leurs revendications, eh bien, ils pourront ne pas la payer et personne ne viendra les rechercher. Personne. Et qu'est-ce qu'ils peuvent demander en plus? Ils vont demander des examens médicaux supplémentaires. Ils vont demander des tests médicaux supplémentaires. Tout ça pour s'assurer qu'en fait, le produit final sera bien là comme ils l'ont conçu. Et donc, on voit bien que pendant ces 9 mois, et même avant, puisqu'on a les traitements pré-grossesse pour que l'utérus puisse nidifier et accepter et prendre en
Donc là,
charge cet embryon, eh bien, pendant toute cette période, la mère porteuse, elle n'est libre absolument de rien. Elle est à disposition.
Wow. Et là
Par
encore,
contrat
c'est pas
et en
grossesse
plus par les
normale.
exigences spécifiques des parents commanditaires.
Tu as parlé de traitements pendant la grossesse, donc il y a des traitements spécifiques donc, qui montrent que là aussi, c'est pas une grossesse normale, quoi.
Oui, alors déjà, on voit que la préoccupation des cliniques, des agences, c'est d'avoir le taux de réussite le plus élevé, parce que c'est leur argument commercial. Et donc, il faut qu'ils optimisent la réussite de ces GPA. Et pour ça, en fait, par exemple, ils vont prescrire des antibiotiques à la mère porteuse. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il y a peut-être un risque d'infection au moment où on procède au transfert d'embryon dans l'utérus. Peut-être un risque. Et donc, antibiotiques. Merci pour les antibiotiques. Ensuite, c'est un traitement pour que l'utérus vraiment soit prêt à recueillir cet embryon. C'est un traitement hormonal. Ensuite, pendant toute la grossesse, c'est pareil pour que le produit final soit là, soit au rendez-vous, il faut des examens constants quoi, pour assurer les parents commanditaires, qu'on appelle aussi les acheteurs.
Voilà, donc je vais reprendre et compléter par rapport à ces contrats où les commanditaires peuvent tout exiger par un autre extrait de la préface. Pourtant, ces contrats continuent de prospérer tout en gagnant en volume, afin de prémunir les commanditaires contre tout risque, notamment à l'égard de ce que vit la mère porteuse. Par exemple, le contrat mentionne les traitements que la mère porteuse doit observer, les effets secondaires qui en découlent, les risques encourus tels que la dépression postpartum, la perte d'un organe ou la possibilité d'une hémorragie, parfois mortelle. Contrat pour lequel la mère porteuse s'engage et auquel elle consent pleinement. Des contrats demandent explicitement, ce qui n'est pas légal, mais cela ne pose aucun problème aux avocats qui les rédigent, préoccupés par la seule satisfaction de leurs clients, que la femme consente à ce que seuls les commanditaires prennent les décisions médicales, notamment ce qui concerne le nombre d'embryons à inséminer et leur sélection. les conditions de résiliation éventuelles du contrat ou un éventuel avortement, et bien sûr, les modalités et la date de l'accouchement. Enfin, le contrat stipule clairement que la femme est informée du risque de mourir pendant la grossesse ou des suites de l'accouchement et qu'elle consent à ce que dans le cas où cela se produirait, ses ayants droit ne réclament rien de plus que le paiement initialement prévu. Ce paiement est présenté comme un dédommagement pour les souffrances subies, ce qui atteste de manière limpide que les juristes qui rédigent les contrats savent pertinemment que ce que l'on demande aux femmes est un sacrifice et non pas un don. De quel don pourrait-il s'agir d'ailleurs concernant la femme elle-même ? Les commanditaires ne sont pas intéressés par la grossesse, mais par l'obtention de l'enfant pour lequel ils payent. Ainsi, parler de don de gestation, comme cela a été proposé, est non seulement impropre, mais de plus totalement faux, car on ne peut faire don d'un processus biologique. Peut-on imaginer un don de mastication pour une personne sans dents ou un don de digestion pour quelqu'un qui aurait des difficultés à digérer et que l'on voudrait aider ? Ce que l'on demande à la femme est de porter une grossesse menée dans les conditions édictées par les commanditaires et surtout de leur remettre à l'enfant à la naissance. Le contrat stipule clairement qu'une partie significative du paiement se fait au moment où l'enfant est remis, ce qui a valu d'ailleurs à certaines mères porteuses de perdre l'argent, car les clients, une fois l'enfant remis par la maternité, n'ont pas versé la somme restante. Le prix de la prestation est basé aussi sur cette garantie de la remise de l'enfant, et il n'est pas le même selon que la femme a déjà été mère porteuse ou non. La sociologue américaine Heather Jacobson montre à travers son enquête que pour celles qui l'ont déjà été, le paiement est plus élevé, parce qu'au-delà du fait qu'elles connaissent le processus de la GPA et ont ce que les professionnels du secteur appellent un utérus avéré, elles ont également démontré qu'elles respectent l'accord de remettre l'enfant à la fin du parcours. Il ne s'agit donc pas d'un don de gestation, parce que ce n'est pas pour cela que les clients payent. Porter la grossesse ne peut être par ailleurs dissocié de l'accouchement, dont il est impossible de faire don, dans la mesure où il s'agit d'une expérience unique, qui relève de l'intimité de la personne. On peut même se demander, lorsque la mère perd un organe ou est victime d'une hémorragie, si ces situations plus courantes qu'on ne veut l'admettre sont considérées comme faisant partie du don. Peut-on faire don d'un enfant ? Une femme peut-elle disposer d'un enfant qu'elle met au monde, l'offrir, le donner ? On comprend bien que si une femme peut disposer d'un enfant sous prétexte qu'elle lui a donné la vie, cela signifie que toute mère a le droit implicite de disposer à sa guise des enfants qu'elle met au monde, y compris pour les éloigner d'elle et surtout pour les remettre à d'autres personnes. Les mères porteuses le font, quelle que soit la configuration dans laquelle l'embryon dont est issu l'enfant a été obtenu, avec leur ovocyte ou non, car elles s'y engagent par contrat. Et aucune des mères qui, dans un premier temps, ont refusé de remettre l'enfant, aucune, quelle que soit la législation du pays, n'a pu le garder. Une fois engagée dans une démarche de GPA, la mère n'a d'autre issue que de donner satisfaction aux commanditaires, protégés par le contrat et leur avocat. Or, disposer d'un être humain, fût-il un nourrisson, c'est le traiter en objet et lui dénier toute appartenance à l'espèce humaine. Voilà, donc maintenant je vais vous faire écouter ce qu'il en est donc de la géographie de la GPA, donc avec un autre extrait l'interview de Marie-Joseph de Villers. Et vous verrez que bien c'est un marché au niveau planétaire, cette industrie n'épargne aucun pays, aucun continent. Mais les cartographies juridiques sont très rapidement obsolètes, il y a des tendances contradictoires. Donc j'en dis pas plus puisque voilà, je vais pas dévoiler ce qu'elle va vous dire quand vous allez l'écouter. Voilà, donc je vous la laisse tout simplement écouter.
Donc en Europe et dans le monde, c'est où que la GPA est réglementée ou interdite ou voilà, on en est où là en ce moment ?
Voyons un petit peu de géographie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en Europe, la plupart des pays interdisent la GPA. Alors, pourquoi l'interdisent-ils ? Alors nous, quand on essaie de comprendre pourquoi cette espèce de singularité de l'Europe, c'est que l'Europe, constitutivement, s'appuie sur une valeur qui est la dignité humaine. On sait qu'on a eu affaire au nazisme pendant la dernière guerre mondiale, et de là est née cette mise en avant de la notion de dignité humaine. Et c'est à ce titre-là que dans la plupart des pays européens, on interdit la GPA parce que c'est une atteinte à la dignité humaine, à notre humanité. C'est une atteinte à notre humanité. Et c'est en ça que, en fait, cette interdiction est quelque chose de progressiste, puisque ça va dans le sens d'un meilleur respect de notre humanité collective. En revanche, parlons maintenant d'un autre cas de figure, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, leur valeur primordiale, c'est la liberté individuelle. C'est comme ça que les États-Unis se conçoivent, se sont conçus. C'est ça leur valeur centrale. Et donc, au nom de la liberté individuelle, c'est comme ça qu'en fait, on défend la GPA. On défend la GPA au nom de la liberté des commanditaires, au nom de ce qu'on appelle la liberté des femmes. Voilà, donc c'est les États-Unis pratique la GPA commerciale, c'est un des grands marchés du monde. Et puis, quand on regarde ensuite l'Asie, alors l'Asie est une situation très, très intéressante parce qu'à partir de l'Inde, qui était à une époque le grand marché mondial de la GPA et qui a, suite à je ne sais combien de scandales, fermé ses frontières, est revenu sur une loi extrêmement restrictive, eh bien, le marché a tenté de se déployer vers d'autres pays, s'est déployé vers le Népal, il s'est déployé vers la Thaïlande, il s'est déployé vers le Cambodge. Et là, pareil, même cas de figure, les scandales de portée médiatique mondiale ont fait florès et ces États ont progressivement fermé l'accès à la GPA pour les clients étrangers, déjà. C'est la première situation. Et après, ils l'ont restreinte à des situations extrêmement bien définies, c'est-à-dire de façon très, très limitée. Mais le marché revient au galop parce que la Thaïlande, qui avait interdit, je ne vais pas revenir sur tous ces scandales qu'on peut trouver très bien expliqués un peu partout, la Thaïlande avait fermé ses frontières et vraiment restreint. Et bien aujourd'hui, ils sont en train de réouvrir à la GPA commerciale. Pourquoi? Pourquoi? Pour une seule raison. Alors, ils avancent quelques arguments, mais la raison principale qui est écrite noir sur blanc, c'est que la GPA transfrontière, ça ramène des devises. Voilà, donc l'intérêt commercial. On fait fi, en fait, de la situation des femmes au nom des marchés économique. Voilà, donc ça c'était on voit bien l'Europe, dignité humaine, les pays les États-Unis, liberté individuelle, l'Asie, une succession de scandales, des limitations pour se protéger de la prédation internationale. Et puis j'oubliais un autre cas de figure qui est le monde de l'ancien empire britannique. Derrière l'ancien empire britannique, donc derrière la Grande-Bretagne, tous les pays qui relèvent de la Grande-Bretagne pratiquent une GPA dite réglementée. Et donc là, c'est toujours le pragmatisme anglo-saxon qu'on retrouve, qui veut que la GPA existe, donc il faut l'organiser. Alors on a ça au Royaume-Uni, bien sûr, mais on a ça en Afrique du Sud, même chose. C'est là où on trouve ce qu'on appelle la GPA. Voilà. On voit aussi que dans ces pays-là qui ont voulu organiser et puis éviter les débordements, eh bien, la GPA commerciale est là aux aguets et les lobbies sont là pour tenter de faire basculer, de supprimer toute l'élimination. Et par exemple, au Canada, alors ça, c'est une chose que nos membres canadiennes, l'organisation qui s'appelle Pour les droits des femmes du Québec, a bien analysé, c'est qu'au Canada, donc la réglementation des mères porteuses, la somme que touchent les mères porteuses est extrêmement réglementée, limitée, réglementée. Et Et il y avait un nombre très, très peu de candidates mères porteuses. On comprend, hein, les femmes ne sont pas, stupides et, sauf nécessité, elles ne vont pas se diriger vers ce type d'activité. Et ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, il y a eu de 200 candidates par an, c'est passé à 500, tout d'un coup. Et on s'est interrogé sur cette évolution. Et ce qui a été mis à jour, c'est que les avocats, les agences avaient trouvé un subterfuge pour contourner la réglementation qui limitait la somme que pouvait toucher une mère porteuse. Eh bien, ils ont ouvert simplement des comptes offshore, des comptes aux États-Unis, des comptes bancaires aux États-Unis, sur lesquels ils ont versé des sommes qui, en totale contravention avec la réglementation du Canada.
Ah,
Mais
d'accord.
le Canada n'a pas vocation à limiter, à intervenir en dehors de ses frontières. Et donc, on voit que le marché utilise des subtilités pour contourner, pour démolir toutes les mesures protectrices, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient.
Ouais, donc c'est un bon exemple pour montrer. Ouais.
Alors, notre rôle à nous, c'est de tenter de revenir justement à la notion d'imposer la notion de dignité humaine comme étant la notion supérieure, la valeur suprême.
Voilà, alors je vais faire une petite pause musicale et je voilà pour revenir juste après. Donc pause musicale avec Non, No Me Toques Mal, Santiago Navas.
Hambre y sueño es lo que usted tiene. hambre y sueño lo que usted tiene que.
Alors, on vient d'écouter juste avant la pause médicale Marie-Joseph de Villers qui nous parlait de la géographie de la GPA. Et donc, elle vous a parlé de différents types de législation, donc la GPA non commerciale ou réglementée, que certains nomment faussement éthique, eh bien en fait c'est juste parce que la femme, en fait c'est hypocrite, ça n'a absolument rien d'éthique, c'est juste la nouvelle novlangue malheureusement utilisée d'ailleurs par les Verts et Cuba qui appellent ça éthique ou solidaire carrément. Alors juste simplement parce qu'elle n'est pas commerciale, alors qu'en fait, quels que soient les stratagèmes pour la faire passer pour éthique, les risques pour la mère sont les mêmes, les risques sur sa santé, voire même sur sa vie. Donc c'est vraiment scandaleux d'appeler ça éthique. Cette pratique est contraire aux droits humains et ce n'est évidemment pas l'intérêt supérieur de l'enfant que d'être acheté ou vendu. Donc évidemment, dire que la GPA éthique, c'est un élément de propagande pour attirer les clients et pour qu'ils aient bonne confiance et surtout qu'on ne leur raconte pas la réalité de la GPA. Chose que, voilà, là je passe du temps pour vous la raconter. Donc en plus, la seule limite imposée à la réglementation de la GPA, donc est présentée, voilà, elle est réglementée, donc elle serait propre, elle serait éthique et tout. Mais en fait, hypocritement, la seule limite, il y a aucune, c'est pas du tout pour la mère en fait. Elle ne concerne, enfin en fait si, elle concerne juste la rémunération de la mère, donc qui est encore plus exploitée. Mais évidemment, pas des tiers. Eux, bien sûr, qu'ils obtiennent une rémunération. Et puis, comme vous l'a dit là dans la Marie-Joseph, donc sur la géographie de la GPA, en réalité, quand la GPA est réglementée, donc non commerciale, ce n'est qu'un avant-pas vers la libéralisation de la GPA, parce que les lobbies, c'est un premier pas, et les lobbies font sans cesse pression sur les gouvernements pour ouvrir le marché commercial. Exemple, en Grande-Bretagne, qui avait la plus ancienne loi de réglementation et qui prévoyait un délai de 6 semaines pour la mère concernant l'abandon de la filiation. Elle avait 6 semaines pour changer d'avis avec cette GPA non commerciale réglementée, et bien en fait il y a eu un contournement, une commission en cours pour supprimer ce délai et transférer la filiation avant la naissance. Donc voilà, c'est tout simplement de la traite d'enfants. Donc je vais maintenant passer à l'extrait sur la critique féministe de la GPA, où en fait Marie-Joseph de Villers va vous présenter un peu les objectifs du livre Ventre à louer, son contenu, va un petit peu vous détailler. Donc je vous laisse écouter.
Alors là-dessus, parce que ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, c'est toujours les mouvements féministes qui ont fait avancer les sociétés. Enfin, il y a eu les mouvements politiques, il y a eu les mouvements populaires, hein, les grèves, les révolutions, tout ça, mais aussi il y a eu les mouvements féministes. Les mouvements féministes sont intervenus à tous les niveaux dans les grands combats sociétaux, sont intervenus dans les questions de racisme, sont intervenus dans les questions d'égalité. Et là aussi, on trouve dans cette question de la GPA et cette bataille pour la dignité humaine partagée par l'ensemble de notre humanité, on trouve aussi les organisations féministes. Elles sont là, présentes, et on a pu, donc nous, de notre côté, coalition internationale, on a pu rassembler beaucoup sous cette bannière d'abolition de la GPA. On en a rassemblé 41, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au-delà de ces 41 organisations,
Nous avons aujourd'hui environ 300 organisations et 3000 individus qui nous soutiennent, qui valident ce qu'on fait, les initiatives qu'on prend. Et une chose dont on est très, très, très fiers, c'est que en Amérique du Sud, où les tentatives pour légaliser la GPA sont très nombreuses, sous la pression du marché, bien évidemment. Et là, dans des pays où l'accès à la contraception et l'avortement n'est même pas concédé aux femmes, eh bien, on veut ouvrir à la GPA. C'est vraiment faire peu de cas, en fait, de l'humanité des femmes que d'en être là. Eh bien, dans ces pays-là, on a réussi, en fait, à rassembler une centaine d'organisations féministes de tous les pays d'Amérique du Sud qui ont, avec nous, établi ce qu'elles appellent un manifeste latino-américain où, en fait, elles donnent les bases de la contestation de la GPA. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est justement que dans un des paragraphes de ce manifeste, elles évoquent la question de l'avortement. Et elles relient en fait ces deux sujets, GPA et avortement. Et ce manifeste a été signé par 250 organisations et puis 2000 personnes. Oui, c'est quelque chose comme ça. Et c'est un outil qui leur permet de contrecarrer, de rencontrer en fait les membres de leur gouvernement pour leur prouver en fait l'importance de leur mouvement de contestation de leur tentative d'ouvrir la GPA commerciale dans leur pays. Donc ça, c'est… Et on voit que partout, en fait, grâce au mouvement féministe, hein, je reviens là-dessus, partout, en fait, dans le monde, s'ouvre cette contestation de la GPA, cette critique de la GPA, cet effort pour, en fait, montrer à quel point c'est ignominieux et c'est déshumanisant. Donc, par exemple, notre organisation membre au Japon a fait un excellent travail pour montrer que les tentatives d'ouverture de la GPA au Japon rencontrent une longue tradition où, en fait, des femmes sont consacrées à la reproduction et elles sont utilisées par des couples dans des cas d'infertilité pour la reproduction exclusivement. Et donc, si elles accouchent d'un garçon, le couple de demandeurs va garder le garçon. Si c'est une fille, elle va garder la fille qui deviendra à son tour une gestatrice de tradition.
Wow.
C'est des choses comme ça qui sont assez incroyables. Donc ça, c'est ce qu'elles nous ont raconté. C'est tout ce travail qu'elles ont fait. Et justement, toutes ces voix qui s'élèvent aujourd'hui contre la GPA, on en a rassemblé une bonne partie dans un ouvrage qui vient de sortir. Féministe de la GPA, et on retrouve toutes ces voix des États-Unis, du Canada, d'Inde, du Japon. C'est ce que je viens de raconter est largement expliqué dans cet ouvrage, d'Espagne, d'Italie, d'Autriche. Voilà, on a des voix qui viennent un peu de partout, de 11 pays, et qui sous des angles différents, aborde la question critique, sous un angle critique évidemment, de la GPA, en analysant des cas particuliers. Tout ce que je raconte sur le Canada est par exemple expliqué dans l'une des contributions, qui parle de tout ce qui s'est passé dans l'État de New York. Je ne sais pas comment qualifier cette façon de faire, c'est-à-dire de contourner vraiment toutes les instances démocratiques pour arriver à imposer la commercialisation de la GPA. Et là, on a plusieurs auteurs qui parlent de cette ignominie, de cette trahison, de cette manipulation gouvernementale pour arriver à imposer la GPA commerciale dans l'État de New York. On parle aussi de la question des technosciences. Comment, en fait, la médicalisation de la reproduction conduit à des choses telles que le transhumanisme ou bien la création de bébés génétiquement modifiés, de création de classes génétiques, c'est-à-dire que les gens qui ont des moyens pourront, cherchent, je ne dis pas qu'ils pourront, ils cherchent à se procurer en fait une descendance aussi parfaite que possible. Et l'une de ses auteurs dit, côté des classes sociales, on voit naître une notion de classe génétique où en fait des individus cherchent à se procurer la meilleure descendance possible par le biais des pratiques médicales et puis de l'eugénisme. On parle aussi de néolibéralisme parce que quand on parle de droit suprême à l'enfant, droit à l'enfant, c'est vraiment l'une des grandes lignes de fond du néolibéralisme qui veut que tout s'achète et tout se vende. Et donc, on a cette critique aussi du néolibéralisme. On a aussi des analyses de la linguistique. Comment est-ce qu'au travers du langage, on arrive à promouvoir cette activité. Voilà. On a aussi, évidemment, les analyses féministes, mais on a aussi une approche au travers du droit des enfants, de la situation des enfants. Donc, ce livre que nous venons de sortir, donc on espère, en rassemblant ainsi toutes ces critiques féministes de la GPA, faire tache d'huile et puis promouvoir auprès du public ces analyses. Parce que ces analyses ne sont accessibles nulle part, franchement. Nulle part.
Et justement, même là en France, on a eu beaucoup de médias qui promouvaient la GPA dernièrement dans des émissions télévisées ou des films, etc. Donc,
Tout à fait. Il y a une émission, une soirée intégrale sur Antenne 2. Et puis constamment, il y a des émissions de cette nature. Alors, l'une de nos organisations membres, COR, a lancé une action en justice de contestation de cette pratique des médias, en montrant que leur point de vue était extrêmement biaisé, puisqu'ils ne donnent la parole qu'à des pro-GPA et dans certains cas, en fait, à des représentants du marché. D'ailleurs, à propos de représentants du marché, nous avons été confrontés au cours d'une conférence organisée par l'un des groupes politiques du Parlement européen. Nous avons été conviés à intervenir avec comme contradicteur ou bien comme contrepartie le directeur d'une organisation qui s'appelle Men Having Babies, qui développe et promeut la GPA transfrontière à l'usage des gays et qui finance aussi, qui apporte aussi des financements pour ces opérations-là. Après avoir montré sa situation personnelle où il a obtenu 2 enfants par GPA, en montrant à quel point il était un couple attentionné, mais on n'en attend pas moins de parents, que d'être des parents attentionnés et soucieux du bien-être de leur enfant, ça c'est la moindre des choses. Et bien après avoir parlé de sa propre situation, sans jamais argumenter au niveau de ce qu'est la gestation pour autrui dans le monde, il a reconnu une chose, il a reconnu que sans argent, il n'y a aucune femme qui accepterait de faire ça.
Ouais, donc il s'est dévoilé, hein, c'est bien.
Ah ben, enfin, c'est clair, hein, c'est clair.
Ouais. Donc, en Europe et dans le monde, c'est...
Voilà. Voilà, j'en ai fini avec ces extraits d'interview de Marie-Joseph de Villers, de la coprésidente de la SIAMS. Je vais juste terminer par un tout petit extrait, quelques lignes du livre que je vous recommande de lire, de vous procurer. Donc, Ventre à louer, une critique féministe de la GPA avec 27 contributions de 11 pays aux éditions L'Échappée, 320 pages, 23 €. Quilombo est le distributeur de l'éditeur. Donc, je vous mettrai le lien. Donc, la librairie Quilombo, c'est le mieux pour le commander. Sinon, voilà. Donc, pour finir, je vous lis juste ce paragraphe qui m'a beaucoup plu. S'il est possible de présenter ce triple sacrifice, celui que la mère fait d'elle-même, celui de l'enfant et celui de l'égale dignité des êtres humains, sous la forme du don consenti fait par des femmes généreuses, C'est parce que la nouvelle barbarie puise dans les tréfonds de la misogynie tout en se parant des atours de l'émancipation et de la liberté des femmes qui auraient ainsi le pouvoir d'affirmer leur choix. Émancipation et liberté universellement reconnues dans la mesure où leur choix épouse fidèlement les intérêts du marché néo-patriarcal et ultra-libéral, c'est-à-dire lorsqu'elles choisissent le sacrifice de soi comme accomplissement de leur liberté de se soumettre. La forme la plus achevée de l'émancipation des femmes serait ainsi de choisir de leur plein gré leur déshumanisation, d'être utilisées comme des tiers de reproduction et autres gestatrices, tout en affirmant ce qui confère un sens, que c'est ce qui confère un sens à la vie. Elles qui sont déjà mères, souvent de plusieurs enfants, et qui sont censées avoir une vie satisfaisante par ailleurs. C'est le bonheur d'offrir des enfants à d'autres personnes. Elles affirment se sentir exister à leurs propres yeux par le sacrifice reproductif non maternel. Voilà, donc on retrouve le mensonge orwellien de la propagande pro-GPA, la liberté c'est l'esclavage, exactement le même mensonge pour la prostitution que malheureusement tant de personnes qui se disent féministes gobent si facilement. Voilà. Donc je vais terminer cette émission. Il me reste un petit peu de temps, donc j'ai quand même le temps de vous donner quelques petites actualités. Effectivement, j'ai passé beaucoup de temps à parler de ce sujet de la GPA, mais je pense que ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Donc pour terminer, juste quelques actualités. Alors à Marseille, la nouvelle Union Populaire est écologique, sociale, mais pas féministe. Voilà, c'est acté. La nouvelle Union Populaire à Marseille, NUP, annonce les candidatures pour la députation. Sept hommes, dont une femme. Cherchez l'erreur, 6 hommes en position éligible et une femme dans une circonscription réputée difficile. Est-ce qu'avec cet acte, toutes vos bonnes intentions restent caduques concernant la parité et par extension la lutte pour les droits des femmes ? Pourtant, dans nos manifestations sur la Canebière, le 8 mars, le Vieux-Port, devant le palais de justice, vous vous précipitiez pour être vu avec les féministes, horrifiés par les féminicides et les atteintes aux droits des femmes. À Marseille, le patriarcat a toujours de beaux jours devant lui, si la surreprésentation masculine est plus importante que la parité. Nous pensions que cette union à gauche était vigilante contre les discriminations faites aux femmes, les tambouilles politiques, les cumuls de mandats et autres parachutages. Aussi, nous soutenons la pétition de Femmes solidaires de Marseille. Donc en fait, ce que là je vous lis, c'est un petit communiqué de la coordination de la Marche mondiale des femmes 13 PACA, qui est une association amie. Et Femmes solidaires de Marseille, c'est une autre association féministe avec laquelle je travaille volontiers et dont je relaie souvent les actions, donc voilà, qui ont écrit cette pétition. Donc nous exigeons un grand plan, nous soutenons la pétition de Femmes solidaires Marseille et avec elle nous exigeons un grand plan de lutte contre les féminicides. Nous n'acceptons plus que le travail des femmes soit invisibilisé et dévalorisé. Nos salaires sont inférieurs de 19,6% à celui des hommes et nos pensions de retraite de 40% au moins. Les femmes étrangères subissent racisme et exclusion dans l'accès au logement, au travail. Les femmes réfugiées ont fui la guerre, la misère, les viols et subissent des agressions des réseaux de prostitution. Nous combattons de longue date la précarité, le racisme et l'exclusion des femmes à Marseille et dans le monde entier. À Marseille, nous serons implacables sur le manquement à la parité de la NUP et demandons un sursaut démocratique immédiat. En politique, les femmes ont toute leur place. Voilà, donc je suis d'accord avec ce communiqué de la Marche mondiale 13 et de Femmes solidaires 13. Voilà. Alors à Matignon, c'est pas mieux puisque la grande cause de l'égalité femmes-hommes, c'est pas que Matignon. Vivre la nomination d'une femme première ministre, Elisabeth Borne, comme un événement exceptionnel, en dit long là aussi sur l'archaïsme, la verticalité et le caractère patriarcal de nos institutions. Alors que dans beaucoup de démocraties modernes, c'est un choix banal depuis déjà longtemps. Donc il va falloir maintenant nous prouver que cette nomination n'est pas un coup de communication, une esquive ou un trompe-l'œil destiné à cacher l'absence d'engagement du président au cours de sa campagne ou la réalité des arbitrages des candidatures LREM aux législatives. Une femme locataire de Matignon effacera-t-elle l'investiture par le parti présidentiel de Jérôme Peyrat, condamné en septembre 2020 pour violence conjugale, désigné aux dépens d'une députée sortante ? Femmes et féministes ne sont pas synonymes. C'est le féminisme qui promeut l'égalité entre femmes et les hommes, qui lutte pour les droits des femmes, qui organise la riposte contre le patriarcat, le sexisme et la misogynie. C'est le féminisme qui dénonce les bas salaires des femmes, leur surreprésentation parmi les premières de corvée et en première ligne face à la crise sanitaire, leur exposition dramatique aux violences sexuelles et sexistes, le péril spécifique qu'incarne pour elles la montée de l'extrême droite ou les risques spécifiques d'une réforme portant à 65 ans l'âge de la retraite. Militantes féministes, nous serons aux côtés de la Première ministre si elle devait essuyer des propos ou des comportements sexistes ou misogynes. Elle pourra compter sur nous. Nous la soutiendrons si elle engage des réformes pour émanciper les femmes de leurs conditions et promouvoir la justice sociale. Cependant, nous jugerons sur pièce ce que cette nomination apporte à toutes les femmes et la politique qui sera conduite. Donc, ceci a été écrit par une femme, Yveline, j'ai oublié son nom de famille, mais je le noterai dans les références du podcast. Je vais le retrouver, de l'Assemblée des femmes. Et donc, voilà, je vous la lis parce que, évidemment, je suis en accord avec ça. Voilà, donc pour terminer, je regarde ce que je peux vous communiquer avec le temps qui me reste. Une actualité importante pour ne pas oublier la situation des femmes en Afghanistan. Il y a une conférence qui est gratuite, mais simplement il faut s'inscrire. Donc vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. C'est organisé par NEGAR, soutien aux femmes d'Afghanistan, et aussi par l'Assemblée des femmes, par Oser le féminisme 13 et par Femmes solidaires Marseille. Donc depuis le 15 août 2021 où les terroristes talibans ont pris Kaboul avec l'aide du Pakistan, ceci a suscité l'émotion de la communauté internationale et la vie s'est arrêtée pour les filles et les femmes afghanes, cibles de la répression fondamentaliste. Des exactions qui confinent au génocide se déroulent aujourd'hui dans le Panjshir. 9 mois ont passé, où en sont aujourd'hui les femmes d'Afghanistan? Donc cette conférence va faire le point, elle est organisée le 27 mai de 18h à 20h30 à l'Alcazar à Marseille, avec le soutien de la ville de Marseille. Elle sera précédée de la projection d'un documentaire qui s'intitule « Une féministe face aux talibans », documentaire de Sylvie Cozzolino et Thierry Tréluyère de la société de production Nomade. Et oui, d'ailleurs c'est un documentaire qui passe aussi sur Arte, vous pouvez voir sur Arte le samedi 21 mai, il repasse ce documentaire-là aussi. Et donc cette conférence, vous entendrez Shukriya Haidar, qui est présidente fondatrice de NEGAR, soutien aux femmes d'Afghanistan, et avec Chantal Véron, la trésorière, qui reviennent du Tadjikistan, et donc voilà, qui vous feront le point sur ce que l'on peut espérer, ce que l'on peut faire pour lutter. Pour soutenir les femmes de cette situation dramatique. Voilà, donc il me reste juste 2 minutes. Je vais juste vous relayer aussi, si vous ne le savez pas, où on en est dernièrement en Afghanistan avec les talibans. Donc les talibans qui privent les femmes de droits d'autonomie, qui les forcent à se cacher. Si elles contreviennent à leurs règles, les sanctions s'abattent sur les hommes de leur famille. En Afghanistan, 100% des femmes sont portées disparues. C'est une affiche que NEGAR a affichée sur les réseaux sociaux. On voit les femmes afghanes enfermées sous la burqa. Ça a été porté sur les réseaux sociaux. Donc après ce nouveau coup porté aux femmes et aux filles par les talibans, un décret du chef suprême qui a ordonné aux femmes de couvrir intégralement leur corps et leur visage avec un voile intégral grillagé au niveau des yeux, aussi appelé burqa. Il leur ordonne aussi de sortir le moins possible. Depuis quelques jours, elles n'ont plus le droit de conduire. Il y a quelques mois, l'école leur a été interdite. Chaque jour, la situation empire et les plus âgées retrouvent les mêmes terribles conditions de vie qu'il y a 21 ans, quand les talibans avaient réussi à s'emparer du pouvoir. Les femmes afghanes sont privées de leurs droits fondamentaux, droit à l'éducation, au travail, aux activités politiques, sociales, culturelles. Voici qu'elles doivent désormais se cacher pour répondre aux délires de leurs bourreaux, afin d'éviter toute provocation quand elles rencontrent un homme, disent ces talibans. Et comme si ça ne suffisait pas à les déposséder d'elles-mêmes, les sanctions prévues dans le cas où des femmes contreviendraient à ce diktat ne s'adressent pas à elles, mais aux hommes qui sont supposés les posséder. Les 2 premières infractions seront sanctionnées d'un avertissement à ces chefs de famille. À la 3e, ils écoperont de 3 jours de prison. À la 4e, ils seront traduits en justice. Les talibans enlèvent aux femmes et aux filles le peu d'autonomie qui leur reste. Ils créent une situation dans laquelle ce n'est même pas aux femmes et aux filles de décider si elles vont résister, parce que ce sont les membres masculins de leur famille qui seront en danger. Voilà, et pendant ce temps, on a Éric Piolle à Grenoble qui veut changer le règlement des piscines pour satisfaire les revendications de l'islam politique, une idéologie totalitaire radicalement misogyne. Voilà, que dire, on est toujours sur cette invention orwellienne où il utilise les mots de liberté, d'émancipation pour le voile, le burkini qui n'est rien d'autre qu'une ségrégation sexuelle. Et donc voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 15 jours. Et j'aurais voulu vous repasser l'hymne des femmes, mais je ne le retrouve pas tout de suite. Voilà. Sinon, je ne vais pas le passer, désolée, pour ce petit intermède. Voilà, l'hymne des femmes, merci de votre soutien.
Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, logo.